C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Je suis très heureux de l'accueillir à l'émission. La dernière fois que je lui ai parlé en entrevue, c'était à l'occasion de son 1000e match. Ça passe vite, 500 matchs plus tard, un autre plateau incroyable pour l'officiel québécois Johnny Murray, qui a vécu ce 1500e match en carrière, ici même à Montréal hier. Bonsoir Johnny et félicitations.
Salut Mario, merci beaucoup, c'est gentil.
Comment as-tu vécu ta soirée? Une soirée très spéciale, sans aucun doute. Je pense que t'as même une journée spéciale dans l'ensemble.
Ben, c'est une journée, une soirée, puis une fin de soirée.
Ah oui?
Très, très spéciale. Oui, c'est sûr que quand tu franchis un plateau qui est dur à atteindre pour nous, c'est le fun. C'est un moment incroyable, même quand que il annonçait ça live au Centre Bell, de voir les gens, mes amis, habillés en arbitre dans les estrades.
Ben oui, je les ai vus.
Ouais, pour me supporter, c'est vraiment quelque chose de spécial, puis je vais me rappeler de ça toute ma vie.
Une émotion particulière d'être sur la glace avec avant de procéder à la mise en jeu, puis c'est rare que les arbitres sont applaudis, Johnny, hein?
Ouais, c'est rare, mais je pense que les Montréalais, les Québécois, je devrais dire juste sans dire que eux, mais je sais pas si même j'ai pas trop entendu l'annonce, mais ils ont parlé que c'est un Québécois. Ils m'ont donné une belle honneur, puis c'est vraiment apprécié. On a un travail qui est difficile, mais je crois que les gens reconnaissent que ça en prend qu'ils prennent des décisions qui soient bonnes ou mauvaises, ou bonnes d'un côté, mauvaises de l'autre. J'ai très apprécié l'honneur qu'ils m'ont donné hier soir.
Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job, Johnny?
Ah, c'est le moment que je mets le patin sur la glace. C'est drôle, je faisais une autre entrevue hier, puis pour moi, il me reste 6 ans, j'ai signé une entente de 6 ans avec la Ligue pour terminer ma carrière, ça va me donner 30 ans, puis la question est venue, qu'est-ce qui est dur de ta job, qu'est-ce qui est facile? Ben pour moi, ce que j'aime, c'est au moment que je mets un patin sur la glace, je me sens dans mon bureau, je sais, j'ai les gens me demandent, es-tu des fois nerveux quand t'embarques sur un match? Pas du tout, c'est ça que j'aime, j'aime travailler avec les gars qui sont sur la glace, les 40 joueurs, les entraîneurs, puis c'est le côté que j'adore de ma job.
As-tu d'abord rêvé à jouer dans la Ligue nationale avant de rêver à y arbitrer?
Absolument. C'est sûr que quand j'étais jeune, je jouais quand même du bon calibre. Je jouais dans le 2A. La dernière année, je jouais dans le 3A. C'était une chose que je voulais faire. Mais quand j'ai tombé, puis oui, j'ai commencé à arbitrer des jeunes novices. Puis j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'est comment gérer des émotions. 40 joueurs, 40 émotions en même temps en tant qu'officiel. J'ai commencé à 14 ans. Puis à l'âge de 16 ans, je faisais du provincial, du midget 3A. Comme juge de ligne, alors j'ai dû lâcher. Je sentais que j'avais des chances de monter très rapidement. Puis c'est ça qui est arrivé. L'année d'après, à 17 ans, j'ai fait junior majeur. 2 ans plus tard, de la ligne américaine à 19 ans. Puis 5 ans plus tard, j'ai signé un contrat temps plein avec la Ligue nationale de hockey.
Quel était ton moment préféré de la journée, match, fin de soirée, quand tu mets tout ça ensemble hier, là, les émotions qui viennent avec le 1500e?
Je te dirais que c'est la fin de soirée dans le sens que quand on voit tous les amis qui viennent un peu partout aux États-Unis, au Canada, qui ont pris 2-3 jours de leur temps, qui ont pris de la, ça coûte des sous venir à Montréal, prendre des chambres d'hôtel, se déplacer pour respecter le l'amitié et le travail que je fais depuis 24 ans dans la Ligue nationale, c'est vraiment touchant. J'en parle, puis c'est spécial de voir tes amis se déplacer, ta famille. Bien entendu, ma femme est descendue de la Floride, mais mes parents, ça faisait la première fois que j'avais mes parents, mes enfants, mon frère, ma soeur, tout le monde ensemble depuis 25 ans. Fait que c'était vraiment touchant.
C'était différent de ton 1000e, parce que le 1000e n'avait pas eu lieu à Montréal. Fait que j'imagine que ça spinait dans bois de grenier, dans ce sens que le film, je sais pas si on voit le film de sa vie dans une occasion comme celle-là, mais en quelque sorte, un petit peu d'une certaine façon, hein?
Oui, c'est sûr que quand tu arrives à des milestones comme le 1000e match, le 1500e match, on dirait que c'est comme un peu quand tu tombes à 30 ans, tu tombes à 40 ans, 50 ans, sans dire tu remets ta carrière ou ta vie en question, mais tu penses aux choses que tu as faites depuis que tu as commencé dans ce travail-là, les bonnes et les mauvaises. Puis c'est ça qui fait la personne qu'on est aujourd'hui, puis la personne qu'on va devenir plus tard. Puis je suis très 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 content, très honoré là, de ma soirée puis de qu'est-ce que j'ai accompli hier soir.
Quand on en a arbitré 1500, est-ce qu'il y en a une couple qui nous reviennent en tête plus que les autres? Puis est-ce que ça exclut les matchs de série, ça, Johnny, ou ça inclut les matchs de série?
Ça exclut les matchs de série, puis ça l'exclut bien attentivement les préparatoires. C'est juste la saison régulière.
Fait que donc, je sais pas si t'as calculé ou si t'as la comptabilité de tes matchs de série là, mais c'est comme on utilise souvent l'expression, comme dirait le mot, c'est du hockey en temps.
Ouais, exactement. Non, dans les playoffs, je suis rendu près de 200 matchs. Je crois que c'est 175 ou 180 matchs que je suis rendu dans les séries éliminatoires. Fait que quand tu mets ça ensemble, ça fait beaucoup de nuits à l'extérieur, beaucoup de bons calls, beaucoup de mauvais calls, beaucoup d'histoires, beaucoup de plein de choses.
Quand tu dis, je sais pas si t'as des anecdotes par rapport à un bon ou peut-être surtout, j'imagine des anecdotes avec un mauvais call ou un call, je sais pas. As-tu déjà été comme un peu dans l'an? Ben, je peux pas croire que dans 1500 matchs, cette année, tu t'es pas senti mal une fois d'une décision. Oh. Oui.
Absolument, absolument. Il y a 3 ou 4 ans, je faisais le match dans la troisième ronde contre j'étais à Saint-Louis contre Saint-Nosé, le fameux passe avec la main manqué en deuxième prolongation. Qu'on pouvait pas. On savait qu'il y avait eu une passe avec la main en voyant la réaction des gens. Mais on n'avait pas les outils pour changer le corps. Puis notre job, c'est d'amener l'intégrité à la partie. Même si on savait qu'on n'avait pas fait le bon corps, on pouvait pas le changer. Aujourd'hui, on peut le changer avec les règlements qui ont changé dû à cet incident-là. Ça, c'était le plus mauvais corps de ma carrière. Ben, le plus mauvais, on était pas capable de le voir. C'est sûr, je suis pas capable de voir à travers un corps humain, voir qu'est-ce qui se passe en avant avec sa main. Dans ce cas-là, c'était le perfect storm, un peu qu'on peut dire pour l'équipe des Sharks à ce match-là. Puis c'est un call manqué. On est sorti de là, on a eu des menaces de mort, comme de quoi on n'allait pas sortir d'hôtel. Mais tu sais, c'est des choses de la vie. Puis si j'étais encore là après un certain nombre d'années, c'est parce que j'en ai fait beaucoup plus de bons corps que de mauvais corps.
Il n'y a aucun doute, mais c'est-tu long ça de sortir du système? Tu sais, tu as sûrement déjà même travaillé avec Denis Morel. Je sais pas si tu as travaillé avec Denis. Tu sais, tu te souviens d'un call qu'il a fait qui, quelque part, l'a complètement ébranlé pour le reste de sa carrière. On pourrait même dire, en quelque sorte, que ça avait mis fin à sa carrière. Arbitre en chef, c'est peut-être différent. Mais quand tu dis que vous le saviez, Johnny, c'est que vous avez vu la reprise sur l'écran géant, j'imagine, constater ça en même temps que tout le public, mais pas pouvoir rien y changer, c'est ça qui est arrivé?
Non, on l'a pas vu sur l'écran, parce que c'est sûr qu'on peut pas toujours regarder l'écran quand on sait que les 76 caméras dans le stadium est sur nous autres. Fait que c'est juste avoir la réaction. Je pense que après un certain nombre d'années d'expérience, avec la réaction des joueurs, la réaction du monde dans les estrades, on est capable de voir quand on sait qu'on a littéralement manqué le corps. Mais à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, on est là pour avoir l'intégrité sur le match. Puis on n'avait pas les outils pour changer le corps. Fait que avoir changé le corps, ça aurait été tricher l'équipe qui ont fait la passe avec la main, qu'on n'était pas capable de changer le corps. Fait que c'est notre job, puis il faut vivre. On a vécu avec cette décision-là, puis on tourne la page, puis on fait une autre année, puis on continue comme ça, on apprend de ça.
Est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué, non pas par une décision, mais parce que c'était un grand match ou un match qui s'est passé quelque chose de spécial sur les 1500 plus 200 séries, il doit y en avoir plusieurs, mais est-ce qu'il y en a qui te remontent spontanément en tête?
Ben, c'est sûr que quand t'es jeune, quand c'est le temps des Olympiques ou la Coupe du Monde, c'est le fun de regarder Team Canada comme Team USA. Je me souviens quand j'étais jeune, je me couchais plus tard pour être capable de voir ces matchs-là. Puis je pense qu'en étant un joueur de hockey, quand t'es jeune, tu t'espères un jour être sur la glace pour représenter ton pays. J'ai eu l'honneur de faire Team Canada, Team USA à la Coupe du Monde à Toronto. Puis je vous dirais avec toutes les finales puis les games d'étoiles, la game d'étoiles que j'ai fait, ce moment-là était vraiment spécial quand tu es à l'hymne nationale puis tu vois les joueurs, la ligne bleue, le jersey Team Canada, Team USA, les frissons, un peu de larmes, les émotions, je devrais dire, qui sortent. Puis c'est des moments wow. que je me souviens de toute ma vie. Là.
Ouais, de le sentir avant même le match, que tu assistes à quelque chose de grand. Je pense à ça, puis je pense à Alain Vigneault pendant l'hymne national en finale de la Coupe Stanley, où tu le voyais les yeux pleins d'eau parce que il vivait exactement le moment semblable à ce que tu décris. Je t'amène dans des situations que pour toi, c'est comme, comment dirais-je, se brosser les dents, là, de procéder à une mise en jeu de journée. Je sais pas, j'ai pas calculé le nombre de mises en jeu auxquelles t'as dû procéder dans ta carrière, mais quand tu chasses un joueur, c'est une partie importante quand même de la game, entre guillemets, les mises en jeu. Pourquoi tu chasses un joueur? Comme c'est survenu hier dans le match et à tous les soirs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu évalues? Pourquoi c'est un plutôt que l'autre? Parce que c'est pas évident pour l'œil de l'amateur qu'est-ce qui fait la différence entre un ou l'autre qui a fait de quoi de pas correct.
Ouais, ben il y a beaucoup de, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables là, dans une mise au jeu que les gens ne sachent pas. Dans des mises au jeu en hand zone, là, je sais pas comment on appelle ça en français.
En fond de territoire.
En phase exactement. Ben le joueur d'attaque a droit de décider s'il veut aller en premier, mettre son bâton sur la glace ou pas. Bon, ça c'est une variable. Mais la plupart du temps, l'équipe défensive met leur bâton en premier dans le petit cercle. Il y a toujours deux petits white dots qu'on appelle en anglais là, un white dot en tout cas qu'il faut qu'ils mettent leur bâton là. Fait que c'est sûr que les joueurs essaient toujours de pousser et de voir jusqu'où que je vais laisser placer son bâton. Fait que c'est bien entendu que s'il est supposé être dans le white dot, mais il met son bâton 3 pouces un peu plus loin pour avoir une rapidité un petit peu plus facile pour lui d'aller chercher à pas quand ça drop, ben si je laisse 3 pouces à un joueur, ben l'autre joueur va se dire bon, mais s'il donne 3 pouces, je vais aller à 4 pouces. Puis à un moment donné, il faut que tu mettes des guidelines. Puis moi, les gars le savent que je suis très strict sur les face-offs. Par contre, j'ai pas besoin de d'éjecter beaucoup de joueurs parce que les joueurs commencent à me connaître. Alors, si un joueur commet une erreur, met pas son bâton ou arrête pas dans le dot, ben c'est là qu'on éjecte un joueur. Ou si le joueur il a le patin complètement à l'autre bord du T, il y a comme un genre de T, là, deux T un peu, là, ou deux L en envers. Si le joueur dépasse avec son patin cette ligne-là, ben il se fait éjecter. Là. C'est sûr que ça paraît facile comme ça, mais il y a beaucoup de variables que là, présentement, je peux pas tout compter. On arrête pour des heures.
J'imagine.
Il y a des joueurs qui essayent de tricher d'autres façons, qui essayent d'autres techniques, puis qu'ils n'ont pas le droit. Un joueur qui va mettre ses deux genoux à terre en gagnant le fait ça, il n'a pas le droit, mais il y a plein de choses comme ça que les joueurs n'ont pas le droit, mais ils s'essayent, puis c'est tout à fait normal. Les joueurs essaient d'avoir un edge, puis la plupart du temps, ça fonctionne pas.
Exactement. Ils vont s'essayer tant qu'ils vont pouvoir, jusqu'à temps qu'ils sachent c'est quoi la ligne à ne pas franchir. As-tu déjà, Johnny Murray, qui est avec nous en entrevue, lui qui participait hier comme juge de ligne à un 1500e match en carrière dans la LNH, as-tu déjà mangé un coup de poing accidentel en tentant de séparer une bagarre?
Oui, ben une couple de fois, mais j'ai surtout eu des bâtons élevés. J'ai à la Coupe du monde, justement, Sidney Crosby m'a donné un coup de bâton sur le menton sur un face-off. Puis en 2001, j'ai Mario Lemieux qui m'a coupé aussi. J'ai deux coupeurs dans la figure, un de Mario Lemieux puis un de Sidney Crosby. Alors, ça fait spécial.
Des belles signatures, t'as le temps qu'à te faire graffiner comme il faut.
Bon, c'est ça. Mais là, je suis en train de travailler sur McDavid. Là.
Jamais 203, il va t'arranger ça en mode, Johnny.
Oui, exactement.
C'est quoi l'aspect? Oui, vas-y, pardon.
Si je peux rajouter, tu sais, des fois, les gens se demandent beaucoup la relation entre les joueurs sur la glace, ils nous crient après, puis ils font des gestes pour tu sais, qui montrent qu'ils nous aiment pas, mais juste vous donner des anecdotes sur ces deux incidents-là qui sont arrivés. Je me souviens, dans la Coupe du monde, je saignais, bien entendu, fait que je suis sorti, je suis allé dans la salle médicale pour avoir des points de suture, puis à un moment donné, Sidney Crosby, je le vois arriver durant le match, dans la chambre, pendant le temps, j'étais en train de faire, puis là, je parlais, puis j'étais comme ça. J'ai dit, Cross, j'ai dit, what are you doing? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Johnny, je voulais faire sûr que tout était correct avec toi, je voulais m'excuser. Fait que là, j'ai dit, retourne, ça a de l'air. J'ai dit, t'as pas d'affaire, mais juste pour vous montrer comment les joueurs, ils sont. Après le match, il est venu me porter son bâton. Même affaire avec Mario Lemieux. Après le match, il m'a amené son bâton. Un mois plus tard, j'avais un match là. Il avait demandé à un photographe de prendre une photo, puis de signer ça, puis venir me montrer ça. Fait que juste pour me dire comment que les joueurs, ils ont beaucoup de classe quand même avec nous, même si c'est pas ça qu'ils demandent sur une glace.
Non, pas tout le temps. Hein. D'ailleurs, ça fait-tu longtemps, je sais pas si tu as regardé du coin de l'œil le début du match Rangers-Devils tout à l'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là, en partant un match, là, des bagarres partout sur la glace. C'est comme, c'était un retour dans le temps. Ça, Johnny, hein?
Mon cher Mario, j'en travaille 73 games par année. Quand j'arrive à la maison avec ma femme, la dernière affaire que je fais, c'est ouvrir la télé et regarder une game de hockey.
Hey, bonne celle-là. Comment ça marche? Quand est-ce que tu le sais si tu participes aux séries comme officiel, Johnny? Comment...
À la fin de la saison.
OK. C'est-tu toujours ouais. comme pour toi, écoute, je pense que tu es fait chaque année, là, je suis pas ça de proche, mais c'est une récompense?
Oui, absolument. Nous aussi, on travaille pour rentrer dans les séries éliminatoires. On veut tout se rendre à la finale de la Coupe Stanley. On est évalué durant la saison avec les corps, les bons corps, les moins bons corps. Fait que c'est ça qui fait que tu rentres dans les playoffs. Une fois rentré dans les playoffs, c'est tes performances de match en match qui fait que tu vas te rendre à la deuxième, troisième ou la finale.
Je t'ai posé la question que je vais te poser lors de l'entrevue du millième match, mais c'est pas le même monde qui est à l'écoute. Fait que je me permets de te la relancer, Johnny, parce que je suis convaincu que, bon, je sais pas combien d'auditeurs étaient là quand on a fait cette entrevue-là. Qui est le joueur dans toute ta vie, de toute ta carrière d'arbitre qui t'a le plus impressionné sur une glace dans la Ligue nationale de hockey?
Impressionné. J'aime pas le mot impressionné parce qu'on en voit tellement. Je vois, tu sais, j'ai vu Wayne Gretzky, j'ai vu Mario Lemieux, j'ai vu, quand vous dites le mot impressionné, vous parlez de quoi? Impressionné en tant que skill?
Ben le meilleur ou le plus doué. Le plus doué, tiens.
Ben le plus doué, je te dirais Pavel Datsyuk. C'est un joueur qui m'impressionnait, oui, sur la glace, parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait au ralenti. Comparativement, tu sais, je regarde des McDavid, puis des McKinnon, puis des Stamkos, Kucherov, ce qu'ils font sur la glace, c'est très rapide. Mais je sais pas comment Pavel Datsyuk il faisait. On appelle ça le triangle un peu, là, les deux patins avec le bâton. Il réussissait à passer la rondelle à travers les joueurs. Puis c'était pas, ça avait l'air tellement facile et tellement au ralenti. Ce gars-là, dans le bon français, je vais dire comme tu t'as mentionné, là, c'est impressionnant à voir.
Oui, hein. Et Mario Lemieux, Gretzky, écoute, tu sais, t'es dans le top 3 des meilleurs de l'histoire, à moins qu'il y en ait un autre actuel qu'on juge qui vient les déloger, là, mais quel privilège quand même d'avoir patiné avec ces gars-là.
Oui, ben, j'aime pas ça dire que c'est un top 3 parce que y a une expression en anglais qui dit you're as good as your last call. Fait que je peux être le meilleur, puis en dedans de un call, je deviens le dernier. Fait que présentement, ma carrière, ça va bien, puis il y a beaucoup de bons officiels qui travaillent dans la Ligue nationale. Il y en a qui n'ont pas l'opportunité encore de montrer leur performance, que je pourrais dire. Mm-hmm. Alors pour moi, présentement, ça va bien, puis j'essaie de garder ça encore un autre 6 ans. Puis après ça, on va enjoyer la retraite.
Quand t'entends parler de toutes les mésaventures des jeunes officiels ou des gens qui s'aventurent dans l'arbitrage, t'en as sûrement vécu avant de devenir un arbitre de la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre que ça existe encore puis qu'il y en a qui se font invectiver de tous les mots possibles? Tu sais, ça prend le caractère de l'emploi, mais en même temps, ça veut pas dire que tu peux tout endurer non plus, là.
Non, mais je vous dirais que là, 30 ans, quand j'ai commencé dans les mineurs, c'était pas drôle non plus. Là. Je me souviens dans le temps de la vieille cabane, on a arbitré à Laval, on a arbitré à Shawinigan dans le géant majeur. C'était loin d'être rose, puis c'était pas rien que des mots dans ce temps-là. Ben, ils garochaient des batteries de téléphone, puis de là, 30 ans, les téléphones, les batteries, c'était pas les batteries qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones. Fait que c'était assez gros comme batterie. On s'est fait tirer des bottes de chaises pour retenir les chaînes dans les arenas. Des paroles incroyables. Ben, dans ce temps-là, on était habitué d'entendre ces choses-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins permis avec la façon que la société accepte les choses, puis pour le bien. Par contre, c'est sûr qu'il va toujours en avoir. Il y a toutes sortes de monde dans le monde. Puis, mais encore une fois, je vais dire que c'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait que je dis souvent, j'ai une école de hockey à Québec, puis j'ai des jeunes qui me disent. Je devrais-tu commencer à arbitrer? Ben, je dis à leurs parents, c'est la meilleure chose parce que vous donnez l'opportunité à votre enfant d'être capable de contrôler des émotions, d'être capable d'être un bon psychologue, un peu un bon arbitre. C'est quelqu'un qui est capable d'envoyer promener un joueur, puis avec l'autre joueur, lui, il faut que tu lui donnes une petite tape dans le dos, puis avec un autre, ben, faut que tu lui fasses des jokes. Ben, ça devient une qualité d'un arbitre. Puis après un certain nombre d'années, tu es capable de gérer tous ces gens-là, mais différemment.
C'est quelque chose comme carrière, en tout cas. As-tu l'impression, puis j'ai l'impression que la réponse est oui, mais je te pose quand même, tu sais, on dit que la Ligue nationale, c'est une grande famille. Les officiels, sentez-vous que vous en faites partie?
Absolument. Puis je pourrais vous donner, on aurait pour une heure, le nombre de téléphones que j'ai reçus hier de des joueurs, des anciens joueurs, des directeurs généraux actifs des noms que je me dis, ben voyons, comment ça, toi, tu m'appelles? Tu sais, c'est le monde qui a demandé mon numéro de téléphone. C'est impressionnant de voir le confrérie qu'il y a dans la Ligue nationale. Absolument. La Ligue nationale fait tellement de bon job avec nous, de nous garder à la loupe de tout. Non, ça, c'est absolument. C'est pas oui, c'est absolument.
Je suis peut-être un peu trop blette, mais quel appel t'as le plus surpris hier?
David Perron. David Perron, justement, il faisait partie du match qu'on a manqué la dernière passe. Il m'a envoyé un texte, un numéro que je connaissais pas. Puis là, j'ai dit sorry, j'ai dit c'est qui? Fait que il m'a dit j'ai fait comme une joke par texte que je veux pas vraiment mentionner, mais en voulant. Fait que c'est David Perron. Fait que c'était vraiment le fun. Pat Bergeron. Qui m'a appelé. J'ai une longue liste de personnes, là, des directeurs généraux qui m'ont appelé, des coachs. Martin Saint-Louis qui est venu me voir après le match. Paul Maurice à Adlas qui a fait un détour pour venir me voir. T'sais, c'est toutes des choses que c'est un respect qu'il me donne, puis c'est vraiment apprécié.
Ben bravo, Johnny, puis profite de ta journée de congé. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis même en régie, ça applaudit pour l'ensemble de l'œuvre. Puis on te souhaite encore 6 belles années dans la LNH. On se reparle au 2000e.
Parfait. Non, on ne me rendrai pas là.
Salut, Johnny.
Salut, bye-bye.
Merci. Johnny Murray, donc officiel juge de ligne dans la Ligue nationale de hockey.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
Alors, ce mercredi, c'est avec joie que nous retrouvons Maxime et Guillaume. Bien le bonsoir, les gars.
Hello, Mario.
Êtes-vous à l'image de beaucoup de gens qui sortaient du Centre Bell hier, c'est-à-dire des clients plutôt contents de ce que vous avez vu récemment? Et vous étonnez-vous du fait qu'il y ait une ambiance aussi positive à chaque match pour une équipe qui va rater les séries encore cette année, si on le sait depuis un bout? Mais êtes-vous étonné de l'ambiance qui règne à chaque match? Des auditeurs me disent « j'en reviens pas ».
Ah non, c'est le fun. Hier, c'était inquiétant pour les Panthers, sans rien enlever aux Canadiens. Tabarouette pour un club qui veut rentrer en série de la bonne façon. Je sais qu'il y a des blessés, mais pour le Canadien, c'est le fun. C'est excitant. Puis, est-ce que c'est surprenant? Non, je pense pas, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui veulent s'implanter dans la Ligue nationale, qui veulent montrer ce qu'ils ont à apporter. T'as un capitaine qui a un contrat de 8 ans, à beaucoup d'argent, qu'on lui a donné le C extrêmement jeune, que plusieurs se questionnaient. Tu sais, on lui a dit, c'est ton équipe, entoure-toi, puis assure-toi que le monde embarque, puis il est en train de, sais-tu quoi, embarquer le monde dans le bateau avec lui. Fait que, pour moi, t'as des jeunes aussi qu'on a repêchés avec une attitude exceptionnelle, qui sont fiers de jouer pour le Canadien de Montréal, pardon. Puis tout ça fait en sorte qu'on est toujours dans les matchs, on se donne des opportunités. Puis, tu sais, même si ça fait longtemps qu'on le sait qu'on fera pas les séries, je trouve vraiment que le Canadien a eu une saison le fun à couvrir, intéressante pour le public, intéressante pour le média. Puis ça, c'est le fun. Puis je pense juste qu'à partir de maintenant, on s'en va juste dans le meilleur puis plus positif pour tout.
Il y a de l'espoir, puis c'est ce qui fait que tout le monde est passionné en ce moment, parce que tu sais, ça revient à ce qu'on disait en début de saison, Mario. Si t'en as pas de talent, ton avantage numérique, elle marche pas, puis des résultats, il y en a pas. Mais là, on en a du talent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de jeunes talents qui arrivent en même temps. Pour moi, c'est plus des tests. Tu sais, Slavkovski, moi, j'ai pas besoin de voir une autre saison pour savoir ce qu'il est capable de faire sa patinoire. Suzuki, c'est confirmé. Là, tu sais, il y a eu toute une fin de saison. C'est un leader, puis il joue, puis il fait son travail.
T'as plus de certitude que de doute sur plusieurs cas, ben, Maxime, hein?
100%, Mario. Puis là, c'est j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été. Tu sais, on va-tu chercher des joueurs? À quel point on va être patient? Puis la façon qu'on joue en fin de saison, ça va aider ces jeunes joueurs-là, parce que le directeur général, il va regarder ça, puis il va dire, ben peut-être qu'on peut prendre un petit pas plus rapide qu'on le pensait à partir de l'an prochain, parce qu'on a de quoi, on a vraiment une belle base sur quoi construire, sans vouloir non plus prendre le plan puis le mettre à la poubelle, là. Mais peut-être qu'on va être tenté d'accélérer les choses de la bonne façon, par contre.
Mais pensez-vous, là, je relance sur ce que tu viens de dire. Je trouve ça très intéressant, Maxime, puis je vous relance tous les deux. Puis moi aussi, je songe à ça là, depuis un bout. Mais je pense pas que ça serait de mettre le plan à poubelle que de faire une ou deux acquisitions qui te permettent vraiment d'améliorer considérablement l'équipe la saison prochaine. Avez-vous l'impression que ça serait de déroger de quoi que ce soit de faire ça?
Non, peut-être que je me suis mal exprimé. Là. Je voulais dire, dans le fond, que tu étais supposé de suivre tes jeunes dans ton plan de reconstruction. Puis là, eux autres, ils semblent faire tout à l'accélérer. T'sais, on dirait qu'un Slavkovski, on ne s'attendait pas qu'elle allait dominer cette année de cette façon-là. Mm-hmm. On pensait qu'il allait s'améliorer. Donc, tu arrives au camp l'an prochain, puis l'image que tu as, c'est Slavkovski de fin de saison, puis Suzuki de fin de saison. Tu te dis, OK, on est-tu rendu là, peut-être, d'aller chercher un gars, je veux pas dire un vétéran de 32, 33 ans, mais un gars de 26, 27, 28, 29 ans qui va fitter avec ce noyau-là pour prendre justement un grand pas dans la bonne direction?
Le portrait Marchessault devient de plus en plus intéressant, là. T'sais, si tu réussis à dire, c'est-tu quoi, on est peut-être là. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on fasse l'erreur de Marc Bergevin puis qu'on se rende des Mike Hoffman puis des joueurs comme ça en disant, c'est des gars établis qu'on peut pas se fier tout le temps, mais qui vont nous emmener de quoi puis qui vont... T'sais, faut pas aller là. Faut se rentrer des gars qu'on est sûr à 100% qui cadrent dans ce qu'on veut bâtir, dans où on veut aller, puis qui vont embarquer derrière un gars comme Suzuki et les jeunes. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Fait que si je trouve un joueur qui est de ce type-là puis qui peut m'emmener ça, ben, let's go, on y va. Puis, sais-tu quoi, il n'y a rien de mal à signer un gars 4, 5, 6 ans s'il va embarquer puis il est encore assez jeune pour suivre. Puis, quand on veut gagner la Coupe dans 3, 4 ans, il a 31, 32, 33 ans. C'est parfait. Mais je veux dire, il faut évaluer c'est qui le joueur. Faut pas faire l'erreur qu'on a faite par le passé, parce que cette erreur-là, pour moi, de joueur, tu sais, la saison qu'on a signé des Hoffman, des gars de même, pour moi, ça nous a reculé de 2-3 ans quand même. Là.
Ouais, mais ça, c'était des mauvaises embauches. Tu parles pas d'un gars qui vient de gagner le Conn Smythe quand tu parles de Mike Hoffman et des autres. Là. Le gars vient de gagner le Conn Smythe.
Non, c'est ça.
Meilleure année en carrière. Par contre, bon, c'est un gars qui s'en va vers les 34 ans. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en penses? Jonathan Marchessault, c'est-tu un gars que ça fit ou c'est pas le bon fit? C'est intéressant que tu amènes ça dans la conversation. T'sais, on en parlait il y a quelques semaines. Je sais pas si lui se voit dans un club comme ça, mais bref.
Ben, tu sais, c'est sûr que j'aime beaucoup Marchessault, ça, c'est sûr et certain. La saison, les séries qu'il a eues, la saison qu'il connaît, je pense que c'est plus le prototype de joueur. Pour moi, c'est d'entourer Kirby Doc. Tu sais, en ce moment, ça va bien sur le premier trio. Ben, Kirby Doc, c'est quoi? C'est qui ses alliés, là? Tu sais, est-ce qu'il va jouer avec Newhook? Est-ce qu'il va jouer avec un vétéran qu'on va aller chercher comme un Marchessault? Tu sais, ça prend quelque chose. Je veux pas qu'on commence non plus avoir un manque de stabilité pour entourer ce jeune joueur-là s'il est pas blessé, là, bien évidemment. Mm-hmm. Je veux pas commencer à avoir Armia un match, Anderson l'autre, Newhook. Je veux voir deux vrais alliés de deuxième trio qui vont entourer un joueur qui a un grand potentiel.
Ouais, ça fait rêver un peu là, de penser que le Canadien pourrait sauter ou monter quelques marches de l'escalier la saison prochaine. Tu sais, un premier trio, mettons qu'on garde le premier trio intact, ou en tout cas, t'as plus de cartouches pour être imaginatif avec tes trios. T'as un Dak, un Marchessault, on commence à parler de série. Si tu fais une embauche de même, tu commences à parler de série dès la saison prochaine, Guillaume?
Ben, si tu fais une embauche de même, faut vraiment... Oui, t'as pas le choix de commencer, puis... Si tu fais cette embauche-là, c'est parce que tu rentres au tournoi de golf, tu dis, cette année, on vise les séries éliminatoires. T'engages pas un gars, puis là, on lance Marchessault, là, mais tu sais, comme t'as dit, il est rendu à 34 ans, mais je veux dire, un type de joueur comme ça que tu vas donner des années, que tu vas donner du terme, si l'année prochaine, tu te dis pas, on pousse vraiment pour les séries éliminatoires. Tu sais, t'as pas le choix. Fait que oui, est-ce qu'on va se dire, c'est-tu quoi, j'aimerais ça encore, moi, je suis plus de l'école à dire, remontrez-moi le groupe de jeunes qu'on a là, avec Dak dans le vestiaire. Comment est-ce que vous êtes capable de performer? Puis comment est-ce que vous êtes capable de rentrer pas loin des séries éliminatoires? Puis l'été, pas cet été, l'autre, là, je ferai vraiment le geste pour aller chercher le gros joueur. Puis peut-être, tu sais, de faire les gestes qui ont à être faits. On va pas évaluer Mayu dans la Ligue nationale, Lane Hudson dans la Ligue nationale. Plusieurs jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir? De voir Montembeault, Primo ensemble, sont-ils capables de toffer les deux encore? Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions autour de ça, beaucoup de positifs du Canadien. Mais je serai encore du côté de la patience pour une autre saison.
OK, de te donner une autre année. J'haïs pas ça parce que j'allais aussi, si on fait l'analyse du cas de Jonathan Marchessault, que ce soit avec le Canadien ou ailleurs, combien d'années vous pensez que, tu sais, une équipe qui trippe vraiment sur lui puis donne en avoir une ou deux, là, combien d'années il est capable d'aller chercher, vous pensez, rendu à près de 34 ans?
Ben moi, je pense qu'il va aller chercher 4-5 ans, c'est sûr. Ben, ils vont jouer le contrat sur son nombre d'années pour que s'il arrête à 38, 39, 40, ben on se retrouve à une place où ce que ça fasse pas trop mal. Là. T'sais, on va. Les contrats à cette heure, on peut les arranger. Puis ça, je suis pas inquiet, mais je vois pas comment Marchessault peut signer à quelque part en bas de 4 ans.
Là. Non, moi non plus. 4 ans, c'est le minimum, mais en même temps, c'est difficile d'imaginer en haut de 5 aussi, considérant l'âge, tu sais.
Oui, les années, c'est une chose, mais ça va être très, très intéressant de voir le montant, Mario, parce que ce qu'il a accompli, là, c'est pas rien. Tu sais, le Conn Smythe, puis 40 buts, c'est pas... tu te compares à qui dans ce temps-là? Là? Tu commences à te comparer au grand de la Ligue nationale de hockey côté salaire. Tu peux pas arriver à prendre un rabais en fin de carrière comme ça. Ça va être son dernier contrat, probablement, et...
T'sais, c'est un gars de 8 millions et plus, Max? C'est un gars de 8
ben,
et plus?
C'est un, pas le choix. C'est un Conn Smythe avec un 40 buts, puis avec un gars qui joue de la bonne façon à tous les soirs. C'est difficile d'aller en dessous de ça, là.
Ben, mais hein.
Tu peux pas aller en dessous de ça, puis surtout si tu veux y offrir un 4 ans. Tu sais, si tu veux y offrir un 3-4 ans, ton terme va monter beaucoup, là. Hey, c'est un Conn Smythe 40 buts, là. Je m'excuse, là, mais il y en a des clubs en ce moment qui sont sur la ligne de gagner la Coupe Stanley, puis que c'est le joueur manquant, là. Tu rentres un Marchessault dans 18 alignements de la Ligue nationale, puis il tombe prétendant à Coupe Stanley. Tu sais, ce gars-là devient un game changer pour ces organisations-là, puis c'est pas pour rien que depuis que Vegas est dans la Ligue, qu'il y a un des joueurs qui est arrivé là-bas la première année, que ce club-là performe année après année aussi. Tu sais, fait si ce gars-là part de Vegas, le club qu'il rentre, il va payer cher, il va lui donner un peu de terme au niveau des années, puis lui, il va devenir un gars qui va changer la donne de cette équipe-là.
Ça fait réfléchir, en tout cas, juste d'y penser, puis c'est sûr et certain que tout l'état-major du Canadien réfléchit à ça. On est avec Max et Guillaume, les gars, vous me permettez, on va s'arrêter le temps de quelques messages, et on est de retour pour la deuxième partie. La question est la suivante. Est-ce que c'est important pour le Canadien de gagner des matchs comme ils l'ont fait dans le cadre de leurs 5 derniers départs, même si ça en fait grimacer certains par rapport au choix de repêchage? On revient après la pause.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
De retour avec Max et Guillaume, les gars, 4 victoires sur 5. Il y a eu beaucoup de défaites auparavant. Il y avait une séquence de 3 victoires seulement en 16 matchs auparavant. Mais il reste que des belles performances lors de certains des derniers matchs, dont le Colorado, dont hier. Est-ce que c'est important pour le Canadien de gagner des matchs comme hier puis d'en gagner le plus possible d'ici la fin de l'année pour vous?
Oui, parce qu'on les gagne de la bonne façon, Mario. Tu sais, c'est pas des points volés, là. C'est vraiment des jeunes qui sont en train de s'établir puis de démontrer c'est quoi la nouvelle culture du Canadien de Montréal. Puis tu sais, on s'entend, là. Tu regardes le classement en ce moment, là. On va repêcher entre 6e, 8e, là. En tout cas, on va finir dans ces eaux-là, dans le fond du classement. Donc, tu sais, on va avoir un bon choix au repêchage cette année, là. Pour moi, là. Puis faut aussi, on le sait qu'on n'aura pas le numéro 1, à moins qu'on soit très chanceux, là. Donc, continuons de bien faire les choses pour la culture. Puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Tu peux pas descendre dans le vestiaire puis demander à Nick Suzuki de pas se forcer. Ça existe pas, ça.
C'est ça. Moi, je suis à la même place. Tu sais, dans la saison, au mois de janvier, je t'aurais dit, ben peut-être, Mario, que je veux y aller pour des bonnes performances puis la défaite me dérange pas. Mais là, au stade que je suis, tu sais, quand je regarde, le Canadien va être 25, 26, 27, 28. Là. Ça va être ça, le classement général. Fait que quand même bien que tu finis 25 au niveau de la Ligue ou 28, on s'entend que les probabilités, les choses rendues là, aussi bien gagner des matchs, bâtir une culture, puis, tu sais, pour moi, là, j'aimerais ça que les Canadiens finissent la saison, là, il leur reste quoi, 8 matchs, là, autour de ce qu'on faisait pour 500, là, tu sais, qu'on joue pour entre 4 à 500, puis si on fait ça, Calgary, Ottawa, Montréal et Arizona jouent entre 4 à 500, fait que tout le monde va se tenir, on va finir dans 5, 6, 7 derniers, puis on va avoir bâti une belle culture intéressante pour l'année prochaine.
Est-ce que ces victoires-là peuvent biaiser l'évaluation qu'on fait de l'équipe favorablement? Est-ce que ça peut nous amener à penser que le club est meilleur qu'il est? C'est quoi la valeur de ces matchs-là de fin de saison contre des belles victoires contre des bons clubs, sans enlever de mérite aux Canadiens, là?
Ben c'est sûr que c'est difficile, puis faut pas rien enlever aux Canadiens, comme tu le dis, mais moi, je regarde les joueurs individuellement, puis la façon qu'ils se comportent, sa patinoire, plus que le jeu d'ensemble. Puis New York, son intensité, sa vitesse, je suis capable de voir le potentiel. Slavkovski, sa protection de rondelle, ses intentions, sa patinoire. Je suis capable de voir que tout ensemble, ces gars-là vont être capables d'amener le Canadien à un autre niveau l'an prochain. Tu sais, les victoires, Mario, puis les points, puis les buts, c'est pas important pour moi, mais la façon de réagir, sa patinoire, puis l'attitude, ça représente beaucoup. Puis on voit tout le monde s'améliorer match après match, que ce soit des vétérans ou des jeunes. Tout le monde semble embarqué dans le plan de Martin Saint-Louis. Tu sais, on oublie souvent le fait que c'est long avant d'instaurer un nouveau système puis une nouvelle culture. Puis là, on joue vraiment à l'image de notre entraîneur-chef. Là, c'est ce qu'on voit en ce moment, en fin de saison, c'est des joueurs qui jouent comme Martin Saint-Louis jouait lorsqu'il était joueur dans la Ligue nationale. C'est qu'on n'accepte pas les demi-mesures. Puis ça, c'est une très, très bonne nouvelle, là.
Ouais, c'est une bonne nouvelle, puis c'est ce qu'il faut continuer de faire, tu sais. Puis il faut pas regarder l'autre bord, qu'est-ce qu'il offre, puis, tu sais, parce qu'on va s'en aller vers la fin de saison. Est-ce qu'il y a des clubs qui vont peut-être jouer moins leurs vétérans pour arriver en série en pleine forme, pas risquer de blessure? Tu sais, on affronte les deuxièmes gardiens. Mais, tu sais, au final, comment est-ce qu'on performe individuellement? Comment est-ce qu'on joue? Comment est-ce qu'on est solide comme équipe? Moi, je pense que c'est l'important chez le Canadien.
Par ailleurs, il y en a un, puis on en a parlé souvent au fil des dernières saisons, des dernières années, mais on dirait que c'est une des fois où il est venu le plus me chercher hier dans son absence de contribution, d'engagement. Et là, Guillaume, ça a pris du temps, mais là, je suis obligé d'embarquer dans le train, moi aussi. Numéro 17, Josh, là, c'est comme... On dirait qu'il habite plus son uniforme pendant les matchs. Vous feriez quoi à la place de Martin Saint-Louis? Parce qu'il s'en va pas nulle part, lui-là. Il reste 3 années de contrat. Tu sais, il y en a plusieurs, la solution facile. La one instant, la one gradin, t'as pas tant de substituts que ça. Mais bref, je vous écoute, les gars. Qu'est-ce qu'on fait avec Josh Anderson?
Ben, moi, je pense que la décision a été prise. On sait son contrat, on sait l'argent qu'on lui doit. Il reste 8 matchs à la saison. Je pense que de le mettre dans les estrades, ça ferait juste l'humilier puis le rendre encore pire au final. Tu dois l'appuyer pour 8 matchs. Tu dois finir la saison en disant, gars, ça a été tough cette année. On a cru en toi. On n'a jamais baissé les bras. On t'a jamais mis dans les estrades. Une grosse été d'entraînement puis on repart à 9. Prends-toi un psychologue sportif cet été, là, puis va te chercher le niveau que t'es capable d'avoir parce qu'on croit que tu peux faire la différence pour notre organisation. Rendu au stade que t'es là, tu vas le mettre dans les estrades, tu vas juste le briser encore plus puis ça va juste créer plus de négatifs. Donc pour moi, garde Josh Anderson dans l'alignement. Essaye d'emmener quelque chose de positif. Permets-y de se reconstruire parce que pour moi, je pense que, tu sais, puis c'est pas un joueur, c'est pas mon joueur préféré, là, on s'entend au niveau de l'intelligence, l'IQ hockey, il est pas dans les meilleurs de la Ligue nationale, non. On s'entend là-dessus, fait que ça, tu l'inventeras pas. Mais Josh Anderson qui reprend confiance, c'est du jeu physique, c'est d'aller au filet, c'est d'être capable d'être dangereux et de faire peur à l'équipe adverse au niveau des... Fait que faut juste retrouver ça pour moi, mais t'as pas le choix de travailler avec puis de te permettre d'avoir... Tu dois lui permettre d'avoir une grosse été d'entraînement puis de revenir en pleine forme.
Moi, Mario, je suis l'opposé de ça. La chance de lui donner confiance puis de se retrouver puis d'être heureux, on l'a fait durant l'hiver. Martin Saint-Louis, il est sorti dans les médias, il a dit « Josh, il se donne une chance à tous les jours, il travaille, puis c'est pas moi que je l'enlèverai pas de l'alignement parce que je vois qu'il essaie de s'en sortir. » Il a eu sa chance cette année de faire ça, puis il s'en est sorti pour une courte séquence. Là, il retourne dans la même situation puis il semble pas vouloir s'en sortir. Moi, ce que je ferais, puis c'est peut-être, ça plaira pas à tout le monde, mais ce serait les 3-4 derniers matchs, je l'assois, pour qu'il s'en aille justement cet été de cette façon-là, en se disant, OK, c'est ça qui m'attend l'an prochain si je joue pas mieux. Fait que, justement, je vais m'entraîner cet été, puis je vais me sortir de ça avec un petit break de 6 mois.
Parce que moi, je pense vraiment pas, Mario, que c'est de l'intention, ce gars-là. Tu sais, je pense pas qu'il est paresseux, je pense pas qu'il veut pas performer.
Il est perdu, Guillaume, hein?
Moi, personnellement, dans mon style de jeu à moi, c'est 90% mental, le hockey, puis je pense que ce gars-là, en ce moment, il est à zéro, là. Il est vraiment, il compte les matchs, puis OK, il en reste 8, il en reste 7, puis j'ai fini, puis on repart à 9, là. Mais ça arrive des...
Guy,
des
tu t'en rappelles en début de saison, quand il frappait les poteaux, on la voyait, l'intention.
Là, il est plus capable. Là, il n'y a plus rien en tête, là. Là, c'est fini, là. Il est mort, là. Dans sa tête, c'est comme, je veux juste que ça finisse, que je... M'en allait sacré, je parte, puis je retourne à la maison.
Ben, dis-le ce que t'allais dire, ça avait l'air beau.
Mais que je parte, je reparte à neuf, puis que je bâtisse là-dessus. Moi, je pense que c'est mental, présentement, ce qui se passe avec Josh Anderson. Puis, il reste 8 matchs, là.
Avez-vous remarqué que les gars qui sont à dernière année de contrat, souvent, ils retrouvent leur mental, puis lui, il en reste 3 années. On dirait que quand les gars jouent leur survie dans la Ligue nationale, tout à coup, ils se raplombent.
Ouais, mais, tu sais, si on arrive, moi, ce que je veux dire, c'est, on finit comme ça, mais après 10 matchs, l'année prochaine, s'il est de la même façon, là, les choses ont changé. Puis là, il aura eu l'opportunité. Mais en ce moment, c'est juste de taper sur un gars à terre pour moi. Mais oui, j'y donne l'été pour se préparer pour arriver. Mais c'est certain, Mario, que quand t'as l'épée en haut de la tête, puis faut que t'aies une grosse saison, puis tu performes pour signer ton prochain contrat, ça devrait pas l'être. Mais je pense que c'est humain aussi. T'sais, c'est comme si, c'est comme tout. Je te dis, si tes cotes d'écoute sont au top dans ton année de négociation de contrat, tu vas être checké encore plus que quand t'as 6 ans de contrat. C'est normal, sûr. C'est humain. T'sais.
C'est sûr.
Mais pour moi, par contre, ça prouve une chose. C'est que le Canadien n'a pas assez de profondeur à l'attaque. Parce 100%. Que t'as pas un joueur d'un gradin en ce moment que tu dis, bon, mais parfait, lui, on va le mettre à la place d'Anderson.
C'est ça le problème.
T'as pas ce joueur-là. Donc, c'est important aussi cet été de suivre le plan, mais de faire l'acquisition de joueurs qui peuvent menacer ton rôle dans l'organisation, qui sont capables de remplir ce rôle-là d'une certaine façon. Puis, tu sais, je trouve que c'est peut-être ça qui manque, c'est des vétérans de qualité qui sont, puis je veux rien enlever, là, parce que Pezzetta, il donne toujours tout ce qu'il a donné, mais ça prend des gars qui sont capables de monter puis de jouer deux, trois matchs, deuxième, troisième trio, là.
Parlant de vétéran de qualité, David Savard, est-ce que tu le laisses entreprendre sa dernière année de contrat, puis t'attends de voir comment ça va aller, puis tu t'essaies de le garder après si t'en as besoin, ou tu prends les devants, puis peut-être tu lui fais une proposition pendant l'été, alors qu'il reste une année de contrat, comme il avait fait avec Jake Allen? Une priorité ou on reste patient par rapport à David?
Moi, je pense que je resterai patient et ouvert à toute situation. Si David cogne à la porte, je suis ouvert à discuter. Si un club m'appelle pour l'avoir, je suis ouvert à discuter. Je me ferme aucune porte pour David Savard. C'est un gars que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup dans le vestiaire. Mais si on souhaite gagner dans 3-4 ans, est-ce que ce gars-là va être à son top? Peut-être pas. Puis est-ce que ce que je peux aller chercher avec sa valeur peut m'emmener plus? La réflexion doit être là. Fait que je suis ouvert des deux côtés, dépendamment de les termes et de l'entente qu'il y a.
T'as quand même, je te dirais, un 3-4 jeunes défenseurs à évaluer l'an prochain, tout dans la saison, pour voir on s'en va par où. Tu sais, si t'arrives, puis les maillots, Hudson, puis toute cette gang-là, ils sont pas prêts, mais pas du tout, ben là, t'as pas le choix de garder Savard pour entourer la gang. Ça, c'est sûr, certain.
Je reviens, excusez-moi, je fais du coq à l'âne, mais je reviens à Josh Anderson, parce que ça me rappelle, c'est un bon ami de Jonathan Drouin, tu sais, puis c'en est un qui s'est remis sur les rails cette année, Jonathan Drouin, puis dans une entrevue qu'il m'accordait vendredi saint, si je me trompe pas, ou jeudi, il disait que dans le fond, tu sais, la première personne à qui, avec quand j'ai demandé, à qui, t'as-tu quelque chose à prouver, il dit à lui-même qu'il avait quelque chose à prouver, fait que ça, veut pas, il y a eu exactement la recette que tu préconisais tout à l'heure, un bon été d'entraînement. Mais l'autre affaire qui jouait beaucoup aussi, il voulait pas décevoir son ami Nathan MacKinnon. Au-delà de pas décevoir lui-même, je sais pas Josh avec qui il y a un lien dans l'équipe où il se sentirait redevable, mais on dirait pas que c'était avec le coach en ce moment.
Ouais, c'est une situation qui est complètement différente pour moi, là, parce que tu sais, Jonathan Drouin, il est à ses derniers milles dans la Ligue nationale, il est presque au salaire minimum, puis tu te retrouves dans une opportunité que il y a 5% des gars dans la Ligue qui ont, là. Tu sais, quand t'es prêt à jouer pour le Canadien de Montréal qui fait pas les séries, puis tu te retrouves sur le premier trio avec MacKinnon, Landeskog.
Alléluia.
Rantanen, excuse-moi. Tu te retrouves là, disons que c'est une opportunité que y a pas grand gars qui vive ça.
C'est vrai.
Fait que puis Josh Anderson, lui, se retrouve dans la chaise où il y a pas trop de rôle, puis même si les Bruins de Boston le prennent demain, je cherche un peu qui pourrait aider, puis quelle situation, puis je trouve vraiment que Jonathan Drouin, la situation que lui a vécue, c'est gagner un billet de loterie, là. C'est vraiment ça, là. Vraiment ça, là.
Je pense que pour Anderson, ça va bien aller le jour qu'il va accepter son nouveau rôle dans la Ligue nationale de hockey. Faut qu'il arrête d'approcher les matchs comme un marqueur de but. Il faut qu'il approche les matchs comme un gars rapide qui est capable de brasser la cabane, puis partir de là. Parce que là, tu le regardes jouer, puis tu te dis, ce gars-là, il veut jouer la game à la Suzuki Caulfield. C'est pas ça son rôle. C'est pas à cause que t'as marqué 27 buts une saison que t'es un marqueur de buts. Lui, il a juste une chose à faire, c'est d'être efficace en échec avant, puis se replier défensivement, puis lancer de partout. Tu sais, c'est aussi simple que ça, son rôle, Mario, là. Puis de défendre ses coéquipiers, pas nécessairement en se battant, mais en ayant une réaction à chaque fois que c'est les Slavkovski, les Suzuki se font brasser, ben, quand t'embarques, toi aussi, il va donner une mise en échec. Puis toi aussi, amène de l'énergie. Mais
ce que je trouve dur d'Anderson, c'est qu'il tue tellement de jeux. C'est ça que je trouve le pire, des fois. Tu vois une opportunité de 3 contre 2, il y a la rondelle, il la met dans le fond. Tu sais, fait que je me dis, même si je vais le chercher, je suis une organisation, je peux pas, en ce moment, payer pour avoir ce gars-là. Tu sais, il faut que je me fasse payer pour le prendre.
Mais en même temps, Guillaume, il pourrait accepter le fait qu'il pourrait devenir un gars comme Colasar, Carrier, puis Roy, tu sais, à Vegas, c'est un quatrième trio incroyable que quand ils embarquent sur la glace, ils ont un impact majeur.
Je suis d'accord avec toi, mais ces gars-là, c'est des vrais dans ce rôle-là.
Je suis d'accord.
Tu comprends? Je veux dire, ça s'invente pas de dire, moi, même matin, tu dis, Guillaume, t'es plus dans la Ligue nationale si t'arrives pas à être un gars qui bloque des shots puis qui se bat puis qui est sur la 4, tu peux pas inventer ce gars-là. Tu sais, je pense que tu te crées une identité comme joueur en montant en Ligue nationale, puis Josh Anderson, c'est clairement pas cette identité-là.
C'est quoi son identité? Ben, je sais même pas c'est quoi son identité. Ben, exactement, les gars, même constat de nous trois, là. C'est exactement ça. Puis il faudrait qu'il s'en trouve une lui-même, puis qu'il l'épouse, qu'il l'accepte, comme tu disais, Maxime. C'est ce qu'on lui souhaite. On espère qu'il aura un été salutaire et très intéressant. Des bonnes discussions, comme à toutes les semaines. Fait que, les gars, un gros merci, puis je vous dis à la semaine prochaine.
Merci à toi, Mario.
Nous sommes salutaires. Salut, mon
Mario. Salut, les boys. Bonne soirée. C'était Guillaume et Maxime à la Poche Bleue Radio. On revient tout de suite.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Remax et le balado Bon Match vous présentent les commentaires hockey de Martin McGuire. Remax, on s'occupe de vous.
J'imagine que c'était facile d'avoir le sourire aux lèvres à l'entraînement ce matin, au lendemain de la victoire du Canadien contre les Panthers de la Floride. Martin McGuire, comme d'habitude, était là pour observer le tout. Bien le bonsoir, Martin.
Salut, Mario.
Alors, un beau match, une belle séquence que vit le Canadien actuellement.
Oui, puis ça s'est transmis bien sûr dans le travail des joueurs à l'entraînement aujourd'hui. Tu le disais, Mario, les joueurs très vocales, ça s'encourageait, ça riait, ça avait du plaisir. Martin Saint-Louis a participé même à une couple de trucs où on l'a vu aussi réagir positivement. Tu sais, dans le Canadien gagne actuellement, le Canadien va chercher un certain succès. Puis ça, ben ça travaille bien. Ça veut dire que tous les efforts que tu as fait dans les dernières semaines, puis que tu es sorti des matchs avec des défaites, puis que ça a été difficile, des défaites par un but. Là, maintenant, tu es récompensé. Alors, c'est sûr que, Mario, l'ambiance était très bonne chez le Canadien. Un bon entraînement d'environ, pas mal, aux alentours de 40 minutes, parce que quand on a une routine, Mario, où il y a un jour sans match, un jour avec un match, là, souvent, on va tenir un bon entraînement d'environ 40-50 minutes la journée avant le match, puis la journée du match maintenant, les entraînements de matin de match sont optionnels. S'il y a eu un congé la veille du match, là, bien sûr, l'entraînement du matin de match est un entraînement complet, mais Mario, à ce temps-ci de l'année, là, on dépasse jamais 15-20 minutes d'entraînement officiel là, le matin des matchs, alors ça va être ça probablement la recette demain. Il y a David Savard et Alex Newhook qui avaient été soustraits à l'entraînement, tous les deux gardés à la clinique pour des traitements. C'est préventif, Mario, on n'a pas eu d'indication à l'effet que ces gars-là pourraient manquer le match de demain. On a confirmé Primo comme gardien partant demain, le Lightning, comme le Lightning joue actuellement à Toronto, on aura probablement aussi pour le Lightning de Tampa Bay un gardien différent pour le match de demain au Centre Bell, là, puisque c'est Vasilevskiy actuellement qui est devant le filet de son équipe. Mario, bien évidemment, hier, la victoire du Canadien, on en a parlé avec toi et Daniel lors de l'après-match, ça a amélioré la fiche totale. Victoire, défaite, points, de 22-23, une fiche de 68 points. Le Canadien en a maintenant 70 grâce à cette victoire assez convaincante contre les Panthers de la Floride. Maintenant, on a une mesure, Mario, les chiffres, ça, on peut faire dire un paquet d'affaires aux chiffres, là, mais on a quand même une mesure. Le Canadien a, en termes de mathématiques, de chiffres, une amélioration qu'on est capable de montrer sur papier. Mais pour Martin Saint-Louis et Samuel Montembeault que j'ai questionné là-dessus, l'amélioration est bien plus importante que le chiffre que le Canadien va aller chercher en termes de victoire et de points à la fin de la saison par rapport à l'an passé. On va écouter Montembeault et Saint-Louis.
La manière qu'on a eu 68 points l'année passée comparé à les 68 points qu'on a eu avant le match d'hier, c'est pas pareil. On est beaucoup, beaucoup plus compétitif, tu sais, puis on pourrait en avoir plus que 68, 70, là. Mais c'est sûr, tu peux mesurer ça. Mais à moins que tu aies vraiment à regarder les 70 matchs, puis tu compares ça à les autres 70 matchs l'année passée, là, 73, ça, si tu les as pas toutes regardées, mais là, tu mesures juste ça avec les points dans le classement. Mais si vraiment t'es là, mais tu peux voir qu'il y a une grosse progression.
T'sais, on joue très bon hockey, puis on a eu tellement de matchs cette année de un but, des matchs en prolongation qu'il y avait plutôt de notre côté où on aurait pu avoir encore plus de points. Maintenant, je suis vraiment content du travail des gars, puis je pense qu'on sera dans la bonne direction. Ouais, mais je trouve à 55 dans notre zone, on est vraiment mieux qu'avant, on joue vraiment mieux, on donne moins de choses. Puis je trouve surtout la chose qu'on s'est améliorée, c'est avant on essayait peut-être un peu trop souvent quand on avait la rondelle à l'aile, donc on venait dans notre zone, on essayait tout le temps le jeu parfait S-West qui des fois peut-être marchait pas, tandis que là, on n'a pas peur de flipper des rondelles en zone neutre. Puis tu sais, notre équipe peut pas scorer si ils sont pas dans notre zone, donc quand on les renvoie à zone neutre, après ça, on peut juste se regroup, se replacer. Puis je trouve hier, on a fait vraiment un bon match aussi. Notre exécution était bonne en zone 1.
Communiquez-vous mieux sur la glace ensemble?
Ouais, je pense que oui. T'sais, on en a parlé même l'autre fois, on avait pratiqué à l'autre côté. Juste le goaler qui joue la rondelle avec les défenseurs, c'est vraiment c'est de se parler plus. Puis non, je pense que les gars font un bon travail. On a fait des vidéos aussi il y a quelques semaines sur la zone défensive. Puis je pense que les gars ont tout de suite gobé ça. Puis maintenant, ça va super bien.
Ah, lui, il était content hier. C'est la première fois qu'il battait les Panthers. Il avait été sorti, je me rappelais pas qu'il avait été sorti du match littéralement deux fois l'an passé contre les Panthers. Donc, le Canadien surpasse sa récolte de points et il reste 8 matchs à l'équipe pour accoter ou dépasser le nombre de victoires récoltées l'an passé. On était à 31 à la fin de la saison. Là, on est à 29. Alors, 8 possibilités. Il y a des bonnes chances qu'on dépasse ça. C'est pas mal intéressant. Puis, un qui contribue à ça, très certainement. Puis là, son nom est de plus en plus sur toutes les lèvres des spectateurs. Oui. Mais je serais curieux, comme toi, tu as l'occasion de le faire sur une base régulière, de voir comment le regard des coéquipiers sur Slavkovski évolue avec son éclosion assez spectaculaire cette année.
Bon, je peux te dire, Mario, que depuis plusieurs semaines, là, c'est encore le petit frère, mais c'est une autre sorte de petit frère. Tu sais, on sait que c'est un petit frère qui contribue maintenant, qui va devenir et qui est en train de devenir tranquillement un joueur très important pour le Canadien de Montréal. Et je pense que tout le monde a souligné encore aujourd'hui la valeur que Slavkovski apporte à cette équipe-là. Valeur ajoutée au premier trio. Mais plus que ça, il y a un intangible autour du jeune homme. Moi, Mario, au cours des dernières semaines, ça m'est arrivé souvent d'aller jaser avec les coéquipiers de Slavkovski. Puis je peux te dire une affaire, ce qui ressortait tout le temps, là, c'était on adore l'attitude de ce jeune homme-là. Slavkovski a su convaincre ses coéquipiers par son attitude. Puis ensuite, il a commencé à grossir son impact sur la glace par ses performances, son amélioration, utiliser son physique. Samuel Montembeau disait, il est gros, puis il commence à jouer gros. Et Samuel qui est un gars assez candide, qui dit les choses comme il le pense, il est revenu sur le match de lutte gréco-romaine entre Ekblad et Slavkovski. D'ailleurs, Ekblad, je parlais avec mon collègue Renaud Lavoie de TVA Sport dans les estrades, puis on se demandait tous les deux, non, mais quelle crampe au cerveau qu'a eu Ekblad d'aller lutter comme ça avec un gars de 230 livres quand tu fais face à une équipe qui fera pas les séries. Résultat, c'est qu'il n'a pas joué une seule minute après. Mais Montembeau a fait une petite allusion en disant que, tu sais, Ekblad, là, il s'est attaqué à un gars plus gros que lui. Il s'est attaqué à un jeune de 20 ans, mais un gars plus gros puis plus fort que lui. Et je pense que ça, Mario, ça sera pas long dans la Ligue nationale que on va y penser à deux fois avant de lutter avec Juraj Slavkovski, surtout avec ce qu'il est capable de faire physiquement. J'ai voulu parler à Martin Saint-Louis du premier trio, mais des deux autres joueurs. Hier, Suzuki, on le sait, 32 buts. C'est lui qui a conduit l'équipe encore une fois. C'est lui qui a été l'inspiration sur la patinoire avec 2 buts en deuxième période. C'est ça qui a mis le Canadien sur les rails. Et à maintes et maintes reprises dans les dernières semaines, c'est Suzuki qui met le Canadien sur les rails. Hier, Caulfield a marqué un beau but sur un jeu tourniquet. Il a été en mesure de placer la rondelle entre le patin et le poteau des buts, là, derrière le gardien de but Stollard. Je demandais au coach aujourd'hui si, selon lui, la chimie entre Caulfield et Suzuki continue de grandir positivement au fur et à mesure qu'on demande des choses différentes à Caulfield, d'ajuster son jeu et que Suzuki, lui, est en train d'émerger. Voici la réponse de l'entraîneur là-dessus.
Moi, je trouve que oui. T'sais, parce si on va dire les leur but serait flippé, là. Si Cole aurait 32 puis Suzy en aurait 21, t'sais, y a personne qui dirait que c'est pas une bonne année. T'sais, je veux dire. Mais là, c'est flippé, puis là, ils pensent tout, oh, Cole, il score plus de but, là, t'sais. Ils jouent beaucoup mieux ensemble que quand Cole il en scorait 40, on va dire, là. Des deux bords de la glace, offensivement et défensivement, ils jouent beaucoup mieux ensemble. Sont plus difficiles à jouer contre des deux bords de la glace parce qu'ils jouent la game ensemble. Mais c'est deux gars qui vont sûrement jouer beaucoup ensemble.
Puis ils vont marquer beaucoup de buts. Fait que moi, j'aime leur chimie. J'aime que c'est que Slav y amène à ça.
Alors, tu sais, Mario, ça va être intéressant avec un retour en force pour Kirby Dack l'automne prochain. Du moins, on l'espère tous là, que ce sera un retour en force pour lui. Il va y avoir une autre combinaison possible pour le coach. Alors, les soirs où les adversaires vont peut-être avoir un peu plus de facilité à neutraliser un tandem Suzuki-Caulfield, puis là, je dis un tandem, comprenez-moi bien, j'exclus pas Slavkovski, là, mais je me concentre sur Suzuki et Caulfield. Alors, les soirs où Caulfield va avoir un petit peu de difficulté à sortir du carcan défensif de ses opposants, de la première paire de défense, ou d'un trio, comme par exemple celui de O'Reilly, quand l'équipe est allée à Nashville, ben quand Dak va être là, Mario, là, il va l'avoir, la deuxième carte, l'entraîneur. Alors, on va peut-être pouvoir jouer avec ça, puis de temps en temps, envoyer Cole Caulfield avec Kirby Dack pour créer quelque chose de différent, une dynamique différente. Ça veut pas dire qu'il ne retournera jamais jouer avec Suzuki, parce que je pense que Martin Saint-Louis est très convaincu de Suzuki-Caulfield, et encore plus convaincu maintenant que Slavkovski apporte quelque chose de très concret à leur côté. Nick Suzuki, lui, a dit « J'ai du succès, mais mes deux coéquipiers, mes deux compagnons de ligne participent beaucoup à ces succès-là, puis eux aussi contribuent au but que je marque. Tu sais, lui, il a partagé ce crédit-là avec ses deux compagnons de ligne. Moi, je lui demandais s'il sentait et un peu plus le respect des adversaires. Tu sais, Mario, il affronte les meilleurs joueurs des autres équipes depuis le début de l'année, puis il fait de mieux en mieux là-dedans. Puis il a dit oui, je l'en ai côtoyé quelques-uns au match des Étoiles, je sens ça. Et aussi de la part des partisans, Mario. Suzuki est resté très humble par rapport à ça en disant « Je sais qu'ils m'encouragent, ils ont toujours été derrière moi depuis que je suis ici, puis j'aime jouer pour eux. » Mais c'est clair, Mario, qu'il le sent, que les partisans sont derrière lui et apprécie le jeu qu'il est en train d'offrir aux Canadiens.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.